Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, notre première destination aujourd'hui est algérienne ou conformément à l'article 113 de la Constitution, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a remis sa démission au président Tebboune. C'est tout à fait normal après une élection législative qui a rebattu les cartes du jeu politique algérien. Les chiffres officiels et définitifs de l'élection du 12 juin ont été rendus publics. Le taux de participation est établi de façon définitive à 23%, ceci incluant les personnes qui ont voté blanc. Donc les résultats également définitifs, je vous les donne. Le Front de Libération Nationale, le FLN, comptabilise 98 sièges au lieu des 105 auxquels on pensait précédemment. Les indépendants, 84, donc eux gagnent 6 sièges. Le Mouvement de la Société pour la Paix a 65 sièges. Le RND, 58. Et le Mouvement Bina, lui, en revanche, en a 39. Il en perd un par rapport au pronostic qui avait été précédemment établi. Donc voilà, maintenant, une nouvelle équipe gouvernementale va être fondée. Elle pourra commencer à travailler avec le Parlement algérien. Un Parlement qui aura maille à partir avec le Irak qui ne manifeste plus le mardi et le vendredi, mais malgré tout la contestation populaire est là. Un défenseur des droits de l'homme, Zaki Anash, vient de rendre public le nombre d'arrestations. Selon lui, 6300 Algériens qui ont manifesté ont été arrêtés sur le territoire national. Ils peuvent donc être considérés comme avoir été victimes d'un délit d'opinion. Ils voulaient contester le régime, réclamer un mieux. Ils ont été arrêtés. D'habitude, les accusations portées contre eux sont liées à l'atteinte de l'unité nationale, atteinte aux institutions, etc. Nombre de ces personnes qui ont été arrêtées sont toujours en prison et toujours dans l'attente d'un procès qui tarde à venir. En Tunisie toujours, les unités de lutte contre le terrorisme qui opèrent dans la région de Gafsa, les unités de recherche, ont réussi à démanteler une cellule terroriste absolument radicalisée qui prévoyait d'exécuter des agents de la sécurité nationale et de les brûler vifs. C'est un détail qui est absolument sinistre, mais qui mérite d'être cité pour dire la violence de ces individus qui, fort heureusement, ont été mis hors d'état de nuire. Ils auront maintenant à répondre de leur projet d'attentat, d'agressivité et d'agression devant les autorités judiciaires de la Tunisie. C'est un coup dur pour la Mauritanie. Nous l'avions déjà évoqué puisque la Mauritanie possède des ressources en hydrocarbures. C'est une ressource que le pays peine à exploiter. La compagnie américaine ExxonMobil avait eu un rendez-vous il y a de cela quelques semaines avec le ministre mauritanien du pétrole. Il avait été question donc des campagnes d'exploration. Hélas, celles qui ont été menées sur les blocs C14, 17 et 22, environ à 200 km au large des côtes mauritaniennes, ces campagnes d'exploration n'ont pas été satisfaisantes et pour des raisons évidentes. S'il y avait eu du pétrole, c'est évident que ExxonMobil serait resté. Mais là, pour l'instant, celui-ci est contraint d'abandonner ses prospections. C'est un coup dur puisque bien évidemment il y a beaucoup d'intérêt de la part de l'État mauritanien pour pouvoir bénéficier d'une exploitation d'hydrocarbures qui permettent de rentrer des devises dans l'économie mauritanienne et de participer ainsi à la richesse, au développement du pays. Et là c'est vrai que pour l'instant les campagnes d'exploration n'ont pas été tout à fait à la hauteur des espoirs suscités. Mais il est là l'espoir du pétrole en Mauritanie. On sait que le pétrole existe maintenant. Il faut avoir la chance, il faut réussir à découvrir là où il est. La fin de la conférence de Berlin sur la Libye. Alors, pas de grande surprise pour ce qui est de la déclaration finale. D'abord, l'aspect politique, avec cette espérance, celle que le 24 décembre prochain, 2021, donc à la fin de l'année, que puisse se tenir le même jour à la fois l'élection présidentielle mais également parlementaire, ceci sur l'ensemble du territoire national libyen. Vraiment tous les pays qui ont participé à cette conférence ont appuyé le gouvernement de transition de telle façon à ce qu'il se sente sûr de lui, qu'il ait les coudées franches et qu'il sache qu'il est supporté par les grandes puissances pour que ce processus électoral puisse venir à bout. Et puis le second point, là encore, sans surprise, il concerne le départ des forces étrangères. Là encore, un propos très clair. Les Allemands l'ont dit, les Américains l'ont dit, les Français l'ont dit, tous les amis de la Libye disent qu'il faut absolument que les forces étrangères quittent le pays. Notons qu'on n'a pas parlé de milices, de troupes, de mercenaires, on a parlé de forces étrangères. Donc ce qui inclut, ce qui induit à la fois bon, les mercenaires, ça c'est vrai, alors à la fois les Syriens, également ceux qui viennent d'Afrique, qui ont du mal parfois à rentrer au pays parce qu'ils estiment que la solde qui leur avait été promise n'a pas été payée. Donc les mercenaires, c'est une chose. Aussi les troupes conventionnelles, là, cela concerne la Turquie et puis également les milices qui sont aujourd'hui parfois, qui acceptent d'avoir des combattants étrangers parmi elles. Il faut que ces milices d'abord arrêtent de faire le jeu des combattants étrangers et puis deuxièmement rentrent chez elles, rendent leurs armes de telle façon à ce qu'une force armée nationale libyenne puisse voir le jour dans ce pays qui, espérons-le, devrait accéder à des élections libres d'ici la fin de l'année. Encore quelques mots sur la Libye avec ses problèmes dans la ville de Zouara. C'est une ville où il y a beaucoup de départs de migrants clandestins et lorsque ceux-ci n'arrivent pas à prendre un bateau, ils traînent en ville. La population locale commence à se plaindre parce qu'il y a un climat d'insécurité. Parfois, il y a des vols de gens alors qu'ils n'ont plus rien à manger, qui ont quasiment perdu tout leur argent. Ça, on veut bien le comprendre, mais malgré tout, cela crée un climat délétère en ville. Donc, les populations locales ont fait savoir aux autorités municipales qu'il fallait absolument trouver une solution à cette Libye qui aujourd'hui est une terre de transfert entre l'Afrique centrale et puis les côtes euro-méditerranéennes. Depuis 2021, ce sont près de 12 000 immigrants illégaux qui ont été secourus ou renvoyés en Libye. Parmi eux, près de 400 sont morts. Il y a près de 600 disparus. Donc, les chiffres humains sont absolument épouvantables. Il faut trouver une solution pour que cesse la migration clandestine qui passe par la Libye.
À chacun ses colères,
à chacun ses colères,
à chacun ses colères,
colère, colère,
colère,
colère, colère. Notre destination aujourd'hui ne sera pas la salle obscure d'un cinéma diffusant un thriller, un polar ou même un film d'espionnage. Haletant et tout à fait frémissant quant au déroulé de l'histoire, non, de façon plus prosaïque, nous allons vers une information qui est tout à fait exacte. L'histoire d'une traductrice du Pentagone américain qui vient d'écoper d'une peine lourde, 23 ans de prison. Il s'agit de Mariam Thompson, pourtant une femme d'âge mûr, 62 ans, qui a reconnu avoir transmis des informations à un ressortissant libanais. Elle espérait que les informations qu'elle transmettrait seraient ensuite divulguées auprès de l'organisation du Hezbollah libanais. Cela s'est passé sur une base militaire où elle était traductrice. Elle a commencé à être approchée sur un réseau social par un homme qui l'a charmée, qui l'a envoûtée, qui l'a mis en confiance et qui lui a dit toute la nécessité de transmettre des informations secrètes qu'elle n'était absolument pas autorisée à divulguer, étant d'un caractère faible ou peut-être machiavélique ou peut-être autre. Il s'avère que Maria Thompson a décidé envers et contre tout de transmettre des informations de 8 informateurs américains, des gens qui travaillent dans les groupes terroristes, des gens qui sont impliqués sur le terrain. Elle a transmis leurs noms et leurs coordonnées, ce qui bien évidemment a eu un impact dramatique pour les informateurs qui ont été ainsi dénoncés. Le Pentagone a sévi de façon tout à fait ferme. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des fuites d'informations. On se souvient de l'affaire Snowden. On se souvient également en Irak de ces images qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux quant au sort qui était réservé aux détenus dans les prisons irakiennes avec des agents américains qui opéraient des scènes extrêmement brutales. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a des fuites. Mais là, une fois encore, le Pentagone est obligé de sévir pour faire respecter le secret qui est pourtant la centralité même de toute action à l'étranger. Et là, cette personne prend 23 ans de prison, mais pour 8 informateurs américains. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais certainement ont-ils vécu des instants très difficiles après leur dénonciation. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.